Comment ça va ? On est ensemble. Vous vous souvenez de ce frère qui témoignait de son passage en Afrique ? On est ensemble. C'est Dieu qui est fort, c'est ce que disent les Africains. Mais je pense qu'on peut le dire aussi nous. C'est Dieu qui est fort. Est-ce que vous avez pris des bonnes résolutions ? Est-ce que vous faites partie de ceux qui, comme tous les ans, prennent des bonnes résolutions ? Allez, on commence une nouvelle année, je décide de faire ça, de prendre telle décision. Voilà, c'est de la rhétorique, hein, vous n'êtes pas obligé de répondre. Et je vois que c'est un peu timide, mais ça va aller. Romains 12, 2 nous dit quoi ? Romains 12, 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que ça ne peut pas être une bonne résolution de cette année 2022, en ce début d'année ? Seigneur, transforme-moi par le renouvellement de ton intelligence. Et si je veux changer tout ce que j'aime pas dans ma vie, il faut commencer par changer, non pas mes actions, non pas mes émotions, mais il faut commencer par changer la façon dont je pense. Et Romains 12, 2, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Il y a cette idée que je dois être renouvelé dans mon intelligence, dans ma façon de penser. Si nous agissons et que nous sommes déprimés, c'est parce que nous nous sentons dépressifs, et si nous nous sentons dépressifs, c'est parce que nous pensons que nous le sommes. La clé de cette transformation par le renouvellement de l'intelligence ne réside pas dans notre action, dans notre comportement, dans notre corps. Elle ne réside pas dans notre volonté, mais dans nos pensées. Et si nous voulons changer notre façon de penser, cela changera notre façon de ressentir les choses, pour enfin changer notre façon d'agir. On peut appliquer ce principe de Romains 12, 2 dans plusieurs domaines de notre vie, relationnel, physique, mental, spirituel, émotionnel. Changer notre façon de penser pour la rendre conforme à celle de Dieu viendra changer notre vide en plénitude, viendra changer notre défaite en victoire, viendra changer notre insécurité et infériorité en courage et en audace. Cette transformation nous aidera à devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Vous savez, ce matin, Dieu a un projet pour chacun de nous. Il a un projet pour notre assemblée. Il a un projet dans chacune de nos vies, individuellement, personnellement. Des projets de bonheur, de paix, et non pas de malheur. Alors, comment fait-on ? Comment on peut procéder ? Commençons par faire le point. En début d'année, on s'assoit, après avoir passé du temps en famille, et puis on fait le point. On va commencer par regarder où en est notre santé spirituelle. Est-ce que vous avez remarqué dans votre vie que lorsque nous sommes le plus éloignés de Dieu, c'est alors que nous sommes le plus dans la difficulté ? Vous avez remarqué ça ? Qui a remarqué ça ? Je suis tout seul. Plus on s'éloigne de Dieu, plus on est dans la difficulté. Et plus les difficultés, les épreuves, en éprouvant un plus grand stress, où tout va de travers. Pourquoi ? Parce qu'on ne coopère pas avec notre Créateur. Parce qu'on ne suit pas le plan de Dieu pour notre vie. Et la Bible dit que le chemin de l'injuste est plein de tempêtes, il est difficile, il est une route tortueuse et rocailleuse. Plus je suis éloigné de Dieu, plus je suis dans la difficulté. En revanche, plus je suis proche de Dieu, plus ma vie sera transformée. Quand Paul a rencontré Jésus face à face, il a été radicalement transformé. Bon, il a commencé par devenir aveugle. Première transformation. Mais la transformation ne s'est pas arrêtée là, heureusement, vous connaissez la suite. Il a été, pour ainsi dire, un terroriste religieux. Il tuait des chrétiens au nom de sa religion. Et il a été transformé de terroriste religieux qu'il était en apôtre de l'amour. Il a écrit plus de la moitié du Nouveau Testament. Ésaïe a été transformé de dépressif qu'il était en homme courageux quand il a rencontré Dieu et qu'il est devenu plus proche de Dieu. Moïse était si proche de Dieu que la Bible nous dit que son visage était transfiguré. Et les gens autour de lui l'ont vu rayonnant. Il était physiquement, Moïse, transformé par la présence de Dieu. Maintenant, nous voulons être plus proches de Dieu. C'est bien votre désir aussi ce matin. Nous désirons être plus proches de Dieu. Sinon, nous ne serions pas là. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des brebis, dont certaines sont égarées, qui ne peuvent se tenir loin de leur berger. Maintenant, on peut se poser trois questions ce matin. Comment pouvons-nous être plus proches de Dieu ? La première question. La deuxième, c'est comment pouvons-nous rester proches de Dieu ? Et la troisième, comment pouvons-nous revenir à Dieu lorsque nous nous sommes éloignés ? Et ça nous arrive. Ça m'arrive. Plusieurs d'entre nous pourront se souvenir de moments dans notre vie où nous sentions la présence de Dieu. J'étais proche de Dieu, je pouvais sentir son amitié, sa présence, sentir que j'étais en communion avec lui. Il y avait de la joie dans ma vie, mais j'ai perdu cela. Comment puis-je revenir à Dieu ? Car c'est comme si j'avais perdu l'étincelle. Parce que je ne suis pas proche de Dieu, je ne serai jamais capable d'être transformé. Nous avons un bel exemple dans la Bible, que vous connaissez, je pense tous, que nous allons prendre ensemble. Il s'agit de la parabole du fils prodigue. Allez, on va la lire une nouvelle fois, vous avez dû la lire des centaines de fois. Dans Luc 15, versets 11 à 24. Luc 15, 11 à 24. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans le pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance ? Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons-le et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Vous n'aimez pas cette histoire ? Elle nous parle de chacun de nous lorsque nous nous éloignons de Dieu. Ce fils commence avec une requête adressée à son père, « Donne-moi la part qui doit me revenir. » C'est toujours la même requête qui exprime l'égoïsme de l'homme en disant « Moi, moi je, moi, donne-moi. » C'est très égoïste. Et souvent, ce que nous faisons dans notre vie, c'est « Donne-moi ce qui me revient, donne-moi. Je veux ce qui est à moi maintenant. » Vous avez déjà regardé Charlie la chocolaterie ? Pas tous. Ceux qui l'ont vu, cette petite fille. Daddy, je veux un écureuil. Cette petite fille, très égoïste, mais parce que l'éducation de son père, certainement. Je veux, donne-moi tout de suite, je veux tout de suite. Bon, elle finit avec le tas d'ordures, avec les... Bref. Je veux un écureuil, je veux maintenant. Donne-moi ce qui me revient. Et s'il faut... Je ferai crédit. On est toujours dans l'urgence. Donne-moi maintenant. Alors il a pris son héritage, il est parti sous les sunlights de Jérusalem. Bon, c'est pas dit, hein. Je romance un peu, vous l'avez remarqué. Et là, il a gaspillé tout son argent. Il a gaspillé son temps. Il a gaspillé son énergie. dans le vin, dans les femmes et le soleil, en particulier les femmes, dans la débauche. Et il est vraiment descendu très bas, plus un sou, plus de maison, SDF. Personne ne lui donnait à manger. Pourquoi ? Parce que, comble de tout, il y eut une grande famine dans le pays. La situation allait de pire en pire jusqu'à ce qu'il trouve le travail le plus dégradant, garder des pourceaux. Vous imaginez, pour un jeune juif, alors que l'Éternel dit « c'est une bête impure », il est parti garder des porcs. On ne peut pas dire ce qu'on peut appeler un boulot idéal. On est bien d'accord. Et il avait faim et il était désespéré. C'est alors qu'il rentre en lui-même pour réaliser que même les ouvriers de son père étaient mieux traités. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dilapidé tout ce que mon père a gagné pendant toute sa vie. Maintenant, je vais rentrer à la maison en demandant à mon père de bien vouloir accepter que je revienne. Je préfère être un serviteur dans ta maison que de rester dans un pays lointain et y mourir de faim. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Le père a répondu favorablement. Cette parabole nous apprend quatre choses que nous pouvons mettre en pratique pour revenir à Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes ce matin. Vous êtes peut-être loin. Loin de Dieu, ou peut-être plus proche. Mais depuis quelque temps, vous avez l'impression que Dieu est moins présent dans votre vie. Comment revenir à lui ? La première des choses qu'on lit dans la parabole, si vous me pardonnez l'expression, c'est en avoir marre, en avoir assez. J'en ai marre de ma vie, j'en ai marre de ces circonstances, j'en ai assez de cette manière de vivre. Je suis fatigué de vivre comme ça. Dans ce stress, je suis seul, déprimé, surbooké, overbooké, suroccupé. Je ne m'aime pas moi-même. Pourquoi les gens ne m'aiment pas ? J'arrive même pas à m'aimer. Je n'aime pas la vie que je vis aujourd'hui. Laissez-moi vous dire une chose, c'est que rien ne se passera dans notre vie si nous n'en sommes pas au point de cette prise de conscience. Si je me dis « je vais bien » et que je suis dans le déni, je n'ai pas besoin de changement dans ma vie. Alors il ne se passera rien. Parce que rien ne se passera dans ma vie tant que je ne l'aurai pas décidé. Je n'en peux plus. Je suis fatigué d'être tout le temps stressé. Je suis fatigué d'être tout le temps stressé, frustré. Je suis fatigué d'être surmené. Je suis fatigué de me sentir loin de Dieu. Je suis fatigué de tout ce que j'entends. Il n'y a pas très longtemps, la nuit, j'ai été réveillé par un mot, Omicron. Non mais vous vous rendez compte ? Ça m'a réveillé. J'entendais Omicron. Nous avons besoin d'être désespérés de cette situation. Nous avons besoin de ressentir cette faim de Dieu. F-A-I-M. Nous avons besoin d'aspirer profondément à un changement dans notre vie. Sinon, rien ne se passera avant que nous acceptions ce constat. Le fils prodigue avait tout dépensé. Il avait faim, il était épuisé, il en avait marre de sa situation. Même pas être en mesure de manger ce que les cochons mangeaient. Et finalement, il a repris ses esprits. Je l'imagine assis sur une pierre, entre les mains comme ça, la tête dans les mains, en disant... Et c'est là que la transformation a commencé. On peut dire, ok, tout va bien, accepter quelques averses dans notre vie, et puis laisser passer les averses conduit à laisser passer les tempêtes et à les accepter dans notre vie. Mais le Seigneur nous aime comme nous sommes. Mais il nous aime encore davantage pour ne pas nous laisser comme nous sommes. Amen. Il nous aime suffisamment pour ne pas nous laisser gaspiller notre vie. Et il veut appeler notre attention, il frappe à la porte. Et si on l'ignore, il frappe simplement à nouveau. Et si on l'ignore encore, il frappe encore. Jusqu'au moment où il défonce la porte. Certains d'entre nous ont cette porte défoncée, perte d'emploi, perte de relation avec son conjoint, perte d'amis. Dieu ne veut pas que nous gaspillions notre vie. Et il ne veut pas que nous passions à côté de lui. Il nous a rendus assoiffés de lui en mettant du sel dans notre espérance. Et quand nous disons « je suis insatisfait de ma vie, je n'aime tout simplement pas la façon dont je vis », hello. Dieu dit « je suis là ». La première étape du changement dans notre vie est celle de passer par cette phase de « j'en ai assez de cette situation ». Jérémie 29, 13 nous dit « vous me cherchez et vous me trouverez, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez, amen, de tout votre cœur. » Si vous cherchez de tout votre cœur, dans quelles conditions cherche-t-on Dieu de tout son cœur ? Quand on est épuisé par sa propre situation, quand on est assoiffé d'une situation meilleure, quand on se dit « il y a plus que ça dans la vie, il y a plus que ça dans la vie ». Première étape, en avoir assez de la situation dans laquelle on est. La deuxième étape qu'on peut tirer encore une fois de la parabole du fils prodigue, c'est assumer. Assumer son péché, ok, reconnaître, se repentir. En d'autres termes, c'est la deuxième chose que ce jeune homme a faite. Quand il a repris ses esprits, qu'il est entré en lui-même au verset 17. Vivre sans Dieu est une folie. Vivre sans Dieu, c'est une folie. Ça n'a pas de sens. Vivre sans Dieu, c'est pas rationnel. Vivre sans le Créateur qui nous a fait n'est pas logique. Quand il est entré en lui-même, il dit « j'ai péché contre le ciel et contre mon Père » au verset 18. Nous devons passer par cette étape où nous reconnaissons que nous avons vécu sans Dieu, que nous avons voulu vivre selon nos propres désirs, que nous avons essayé de tout maîtriser autour de nous. Est-ce que j'essaie pas parfois de maîtriser des situations qui de toute façon ne sont pas à ma portée ? Je ne peux pas maîtriser. Même si nous savons que nous ne pouvons rien contrôler, nous avons essayé de tout contrôler. Et nous devons reconnaître que nous sommes fatigué d'essayer de tout contrôler. Amen, ça résonne. Ésaïe 39, 2, « Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Avez-vous déjà prié avec la sensation que Dieu se trouvait à des milliers de kilomètres de vous ? Ouais, ça arrivait qu'à moi aussi. Avez-vous déjà prié avec le sentiment que vos prières ne dépassent pas le plafond ? Alors certains ont un plafond plus haut que d'autres hein, à la maison, mais quand même. T'es où ? D'où cela vient-il ? Ésaïe 39, 2, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà d'où ça vient. Si nous nous sentons loin de Dieu, c'est peut-être parce que nous avons bougé. Dieu n'a pas bougé. C'est nous qui avons bougé. Dieu n'est pas parti en vacances dans un pays étranger. Le Seigneur est toujours là et il sera toujours là. Et il nous aime de manière inconditionnelle. Mais si nous nous sentons loin de Dieu, c'est parce que c'est nous qui nous sommes éloignés de lui. Et nous sommes éloignés en donnant notre amour à quelqu'un d'autre, à autre chose. Tout ce qui détourne notre amour de Dieu vers autre chose que lui. La Bible l'appelle une idole. Ça peut être notre voiture, ça peut être notre travail, ça peut être notre apparence. Tout ce que nous aimons plus que Dieu devient une idole. L'argent, le succès peuvent devenir des idoles. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Toutes ces choses ne sont pas mauvaises en elles-mêmes. Une voiture, c'est quand même bien pratique. Mais si elles prennent la première place devant Dieu, elle nous éloigne de Dieu. Une chose est sûre, je suis aussi proche de Dieu que je l'ai moi-même décidé de l'être. Ah, c'est intéressant. Dieu ne pourra jamais être plus proche de nous qu'il l'est aujourd'hui. On ne peut rien faire de plus pour que Dieu soit proche de nous. Comprenez ce que je dis ? Je ne peux rien faire pour que la grâce de Dieu soit encore plus abondante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Je ne mérite pas la grâce de Dieu. Mais je suis aussi proche de Dieu que je l'ai moi-même décidé. Je peux blâmer personne. Je peux blâmer ni mon épouse, ni mon mari, ni ma mère, ni mon frère, ni mes sœurs. C'est une chanson, ça, hein ? Oh oui, ce serait le bonheur. Ah, si mon mari, si mon épouse pouvait être plus spirituel, je serais plus proche de Dieu. Vraiment ? Vraiment ? Ma proximité avec Dieu dépend de mes propres choix. Donc, reconnaître, je reconnais mon péché. Seigneur, je me repens. Pardon. J'ai dilapidé tout ce que j'avais. Cette situation dans laquelle je suis, je reconnais que c'est par ma faute. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Et quand on reconnaît l'état dans lequel nous sommes, que nous aspirons vraiment à retrouver la présence de Dieu, à retourner dans la proximité avec lui, dans l'intimité avec lui, que répond-il ? Psaume 51, versets 1 à 6, c'est David qui parle. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fût allé vers Bathsheba, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David a reconnu sa faute. Il a reconnu son péché. Je reconnais mes transgressions, j'assume. Parfois, je suis dans un tel état que je me dis, mais il ne va jamais m'accepter. Quand j'ai fait ce constat, Seigneur, pardon. Et tout de suite. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, dit le psaume 103, verset 12. Et Michée 7, 19, il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Alléluia! Quelle espérance nous avons! Et ce que nous avons, ce que nous espérons encore, est-ce que ce que nous avons déjà, est-ce que nous l'espérons encore? De la même manière que nous avons fait un check-up complet dans notre corps, hein, régulièrement, à partir d'un certain âge, on fait un bilan de santé, on fait des analyses de sang, et puis on regarde. OK. De la même manière, faire le point régulièrement sur notre santé spirituelle peut être bénéfique. Voici quatre domaines qui peuvent servir d'indicateur. Ma louange vers Dieu. Où j'en suis dans ma louange? Est-ce que j'ai encore envie de louer le Seigneur? Pas que le dimanche. Où j'en suis? Un indicateur. Où j'en suis dans ma communion fraternelle? Est-ce que j'ai cette même envie d'aller voir les frères et sœurs? Où j'en suis? Où en suis-je dans ma fidélité en tant que disciple? Est-ce que je lis régulièrement la parole de Dieu? Où est-ce que j'en suis dans le témoignage? Tout ça, ce sont des indicateurs qui peuvent nous servir à évaluer notre santé spirituelle. La parole de Dieu ne nous invite-t-elle pas à nous éprouver nous-mêmes? C'est ce que nous lisons tous les dimanches avant la Sainte Cène, 1 Corinthiens 11. Alors pourquoi ne pas faire un point de situation personnelle tous les 6 mois? Pourquoi pas? Où en suis-je avec le Seigneur dans ces 5 domaines de ma vie? Et ce sera aussi une bonne manière de constater les progrès que nous faisons. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une... Amen. Tout le monde n'était pas là. Si quelqu'un est en Christ, il est une... Nouvelle création. Dis à ton voisin, je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. Ah, ça va vous réveiller un peu. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur nous dit par là que nous sommes une nouvelle créature. Waouh ! Nous n'avons pas davantage à rester comme nous sommes. Frères et sœurs, nous n'avons pas à rester comme nous sommes, parce que nous sommes déjà une nouvelle créature. Nous avons une nouvelle identité en Christ. Certains depuis plus de temps que d'autres, Mais peu importe, nous avons une destinée en Christ. Tous ceux qui dépendent de Jésus-Christ sont devenus de nouvelles personnes. Votre vie ancienne, c'est du passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Première étape, en avoir assez de la situation dans laquelle on est. Deuxième étape, se repentir, assumer son péché, reconnaître que nous avons péché. Troisième étape, offrir sa vie. Et c'est la troisième chose que le fils prodigue a faite. Rappelez-vous au verset 12. Il dit à son père, « Donne-moi ma part. » Mais au verset 19, il dit, « Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Waouh ! Quel changement ! Quel changement ! Du « Donne-moi », il arrive à « Utilise-moi ». Quelle transformation ! Ça n'a pas été instantané. La parabole ne nous dit pas combien de temps il est resté à donner à manger aux pourceaux et à dilapider son argent. Mais c'est le fruit d'une décision que chacun doit prendre. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Nous sommes transformés. Je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention au mot « transformé » en grec. Philippe ? Oui, c'est « métamorphosé ». Processus qui est toujours en cours. En plus, le temps qui est utilisé, c'est pas « nous avons été transformés, voilà, boum, c'est fait ». Non, nous sommes en cours de transformation. Il dure dans le temps. Cette transformation a commencé et se poursuit. Ça ne se passe pas en un clin d'œil, ça prend du temps. Frères et sœurs, que ça nous encourage ce matin à persévérer dans notre transformation, dans notre sanctification. Parfois on se dit, oh là là, j'en suis encore là. Non, mais ça prend du temps. Laisse-toi transformer. Persévère dans la sanctification. Le Seigneur nous a créés pour que nous soyons des papillons, pour reprendre cette image de la métamorphose. Il nous a créés pour que nous soyons purs, saints, prêts à toute bonne œuvre. Mais nous avons besoin de décider de rentrer dans ce processus de transformation, nous avons besoin de décider de persévérer dans la sanctification. Désirons profondément être transformés par le Seigneur, par son Esprit. Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Offrons-nous à Dieu. Il ne peut pas y avoir de transformation si nous ne nous offrons pas à Dieu. Si à un moment donné, nous ne lui disons pas, « Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je t'offre ma vie. » On a pu le faire il y a plusieurs années. Hein. « Oui, je reconnais, Seigneur, que tu es mon sauveur. Je t'offre ma vie. » Mais c'est un processus qui dure. Il est intéressant de noter la réponse du Seigneur au verset 19 de Luc 15. Une réponse remplie d'amour et de compassion. Qu'a fait le Père quand il a vu son fils déjà au loin ? Il a couru se jeter au cou de son fils pour l'embrasser. Apportez la plus belle robe. Mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau qui signifie l'autorité. Si vous dites au Seigneur ce matin, « Seigneur, j'en ai assez de cette vie. » Le Seigneur va courir vers vous pour vous serrer dans ses bras. Il attend ce moment dans votre vie. Il attend que vous soyez d'accord pour qu'il puisse vous serrer dans ses bras. Il court au-devant de vous. Le Seigneur a un meilleur plan pour votre vie que vous ne pouvez même pas imaginer. Peut-être que vous vous dites ce matin, « Ok, moi tout va bien dans ma vie, j'ai une belle vie. » Peut-être, et tant mieux. Le problème, c'est qu'on n'en a jamais assez, il en faut toujours plus. Nous sommes créés, vous êtes créés pour avoir davantage qu'une belle vie avec le Seigneur. Nous avons été créés pour une vie encore meilleure. Une vie comme vous ne pouvez même pas l'imaginer, comme cette chenille qui est incapable d'imaginer qu'un jour elle va se transformer en papillon. Zacharie 1:3 dit « Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées, revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Revenez à Dieu. Revenons à Dieu. Et il ouvrira ses bras, il tuera le veau gras pour nous revêtira d'un anneau d'or, des vêtements de fête. Quand nous revenons à Dieu, il ne nous accueille pas avec condamnation, mais avec célébration. Dites-lui simplement « Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Je te loue et je te rends gloire et notre vie sera transformée. » Le psaume 35 nous dit « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. » Vous aimez l'Éternel ? Amen. « Chantez à l'Éternel, célébrez par vos louanges sa sainteté. » Le psaume 33-47 nous dit « Chantez-lui un cantique nouveau. » Faites retentir vos instruments et vos voix. Laissez-moi vous inviter à faire quelque chose. Peut-être de nouveau. Chantez. Chantez dans l'église. Chantez des louanges à la maison. Chantez. Vous savez que chanter, c'est bon pour la santé ? C'est étonnant, hein ? Alors, il y a des études partout, dans tous les sens, hein, mais il y a des scientifiques qui se sont penchés sur l'étude du chant, et en groupe, du chant en groupe notamment, et ils ont trouvé que c'était bon pour la santé mentale, c'est bon pour la santé émotionnelle et pour la santé physique. Ils ont découvert que chanter en groupe faisait baisser la tension artérielle. Vous y croyez, vous ? Chanter en groupe fait baisser la tension artérielle. Chanter en groupe fait sécréter de l'endorphine. L'endorphine, c'est, vous savez, c'est l'hormone du bien-être. Chanter en groupe agit sur l'humeur, redonne confiance en soi, diminue le sentiment de solitude, diminue le stress et les émotions négatives et crée des émotions positives. Merci Seigneur pour cette invention que tu as faite, que tu as trouvée par le chant. Louez l'Éternel. Waouh ! Ça fera baisser votre tension artérielle. Je finis avec ça. Qu'en ces débuts d'année, frères et sœurs, nous prenions cette décision, chacun pour ce qui nous concerne, de prendre du temps pour faire un bilan, de faire le point, de s'asseoir au calme. Seigneur, j'en suis où ? J'en suis où avec toi ? J'aime pas tout ce qui se passe dans ma vie. Je veux plus de toi. Je veux plus de ta présence. Je veux pas me laisser tromper par mes sentiments, mes émotions. Je sais que tu es là. C'est pas parce que je te ressens pas que t'es pas là, mais je me sens, moi, loin de toi. Alors pardon. Pardon d'avoir peut-être adoré d'autres dieux que toi. Tu es le seul Dieu qui mérite mon adoration. Pardon d'avoir passé du temps dans des choses qui ne méritaient pas. Pardon d'avoir donné plus d'attention à des choses qui ne méritaient pas. Toutes ces choses qui me volent le temps que je dois passer avec toi, que je veux passer avec toi. Jésus n'est pas mort pour que nous ayons une religion. Jésus est mort pour que nous ayons une relation avec Dieu. Parce que Seigneur, tu nous as réconciliés par ton sang avec le Père. Merci Papa, merci Père éternel, toi le créateur de l'univers qui a décidé d'être en relation avec chacun de nous. Merci pour ce bilan que tu nous permets de faire ce matin Seigneur et dans les jours qui viennent et régulièrement tout au long de cette année. Tu ne veux pas que nous gaspillions notre temps Seigneur. Tu ne veux pas que nous devenions non plus des religieux, ça ne t'intéresse pas. Tu les as suffisamment fustigés, ces religieux, Seigneur, qui avaient une apparence, mais qui dans leur cœur étaient vides et creux. C'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est être en relation avec nous tout le temps. Que nous ayons, Seigneur, cette conscience permanente que tu es là avec nous, que tu nous aimes et que tu es toujours là pour nous accueillir. Parce que tu veux nous transformer. Tu veux continuer à nous transformer, Seigneur. Tu veux continuer à nous conduire dans la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Merci parce que tu n'es pas là avec la condamnation, mais tu nous accueilles, Seigneur, avec réjouissance, et tu mets ta paix dans nos cœurs, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix dont nous avons besoin, Seigneur, dans ce monde qui se noircit de plus en plus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, nous confessons ce matin que nous avons besoin de toi. Merci parce que tu nous gardes dans ta main. Tu es notre berger. Et personne ne nous ravira de ta main, Seigneur. Si nous nous sentons loin de toi, parfois, c'est parce que c'est nous qui nous éloignons. Mais merci parce que tu as pardonné nos péchés à la croix. Que tu sois glorifié dans nos vies. Que tu sois glorifié, Seigneur, dans l'Église. Sers-toi de nous. Sers-toi de moi. Utilise-moi pour ta gloire. Amen.